tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offre des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1980-1990, vous entendrez de Christoph Penderecki, Hymne to Saint Daniel.
Accepter les limites, retrouver son âme. Par Christopher Lasch. Péché d'orgueil. Croire à l'avancée indéfinie du progrès, c'est refuser d'accepter les limites, tant celles de l'humain que de la nature. Toujours plus, mais plus de quoi? Pour Christopher Lasch, l'un des inspirateurs de Jean-Claude Michéa, il faut redonner du sens à la vie, personnelle et collective, en renouant avec les valeurs décriées de la petite bourgeoisie. Conservatisme moral, sens de la loyauté et du beau travail. Comment se fait-il que des gens sérieux continuent à croire au progrès, alors que les évidences les plus massives auraient dû, une fois pour toutes, les conduire à abandonner cette idée? La tentative d'expliquer cette anomalie, la persistance d'une croyance au progrès dans un siècle rempli d'atrocités, m'incita à me pencher sur le XVIIIe siècle, moment où les fondateurs du libéralisme moderne commencèrent à soutenir que les besoins humains, étant insatiables, nécessitaient une expansion illimitée des forces de production indispensables à leur satisfaction. Le désir insatiable, jadis condamné comme source de frustration, de malheur et de désarroi spirituel, commença alors à être envisagé comme un puissant stimulant au développement économique. Loin de dénigrer cette tendance à vouloir toujours plus, des libéraux comme Adam Smith avancèrent que les besoins variaient d'une société à l'autre, que les hommes et les femmes civilisés avaient des exigences supérieures à celles des sauvages pour être à leur aise, et qu'une perpétuelle redéfinition de leurs concepts de confort et de commodité conduisait à des perfectionnements dans la production et à une augmentation générale de la richesse. La transformation du luxe en nécessité ne pouvait dès lors plus connaître de terme. Plus les gens jouissaient de commodité, plus ils en demandaient. La plasticité de la demande parut donner à l'idée anglo-américaine du progrès une base solide qui ne pouvait être ébranlée par des événements ultérieurs, même par les guerres mondiales qui éclatèrent au XXe siècle. Ces guerres, bien au contraire, apportèrent davantage de dynamisme au développement économique.
Ayant pris conscience des limites écologiques à l'expansion économique, nous avons besoin de soumettre l'idée de progrès à une critique minutieuse.
Au-delà de la posture nostalgique, l'hypothèse que notre niveau de vie, au sens le plus large du terme, connaîtra un net progrès, embellit notre manière d'envisager le passé aussi bien que notre vision du futur. Elle donne lieu à une aspiration nostalgique pour la simplicité d'antan, l'autre face de l'idéologie du progrès. La nostalgie, qu'il ne faut pas simplement comparer à la recherche du temps enfui, doit plutôt être comprise comme une abdication de la mémoire. Elle fait du passé un pays étranger. Elle brouille les connexions entre le passé et le présent. Profondément enracinée à la fois dans la culture populaire et la sociologie universitaire, la posture nostalgique tend à remplacer l'analyse historique par des typologies abstraites, société traditionnelle et moderne, Gemeinschaft et Gesellschaft, qui entravent la reconstruction imaginaire de notre passé ou une évaluation réfléchie de nos perspectives. Maintenant que nous avons commencé à prendre conscience des limites écologiques à l'expansion économique, nous avons besoin de soumettre l'idée du progrès à une critique minutieuse. Mais une vision nostalgique du passé ne fournit pas les arguments nécessaires à une telle critique. Elle ne nous donne qu'une image inversée du progrès, une vision unidimensionnelle de l'histoire dans laquelle un pessimisme désenchanté et une sorte d'optimisme fataliste demeurent les seuls points de référence, une critique du progrès qui ne tient qu'au contraste entre les complexes sociétés modernes et les communautés, caractérisées par un lien social fort, prétendument typique du monde que nous avons perdu. L'idée du progrès et le contrepoint communautaire qui l'accompagne favorise une sorte de spéculation qui cherche à mettre en balance les avantages apportés par le progrès et les pertes qu'il occasionne, et demeure forcément ambivalente face aux problèmes envisagés dans sa globalité. Ce qui s'impose est un point de vue qui coupe court à cet interminable débat, qui questionne les typologies dominantes et nous permet de comprendre les différences existant entre la nostalgie et la mémoire, l'optimisme et l'espérance. Une insatisfaction grandissante à l'encontre du point de vue dominant a conduit les historiens et la critique sociale à interroger la tradition, de ce côté-ci de l'Atlantique, du républicanisme ou de l'humanisme civique, un adversaire historiquement important de la tradition libérale. Des universitaires ont démontré que l'économie politique libérale avait dû faire face pour s'imposer à une opposition vigoureuse, que son triomphe final était loin d'être acquis à l'avance, et que la tradition républicaine persistait notamment au XIXe siècle à soutenir un idéal de société décente radicalement différent de celui que mettait en avant le libéralisme. Mon interprétation du populisme du XIXe siècle ou de la démocratie fondée sur la propriété, généralement entendue comme un corps de pensée sociale condamnant l'appétit sans borne pour toujours plus de biens, et se méfiant des progrès dès lors qu'ils ne font qu'engendrer une division du travail de plus en plus perfectionnée, s'appuie sur les recherches d'historiens de la tradition républicaine. Je soutiens cependant que le concept de vertu, qui joue un rôle si important dans la critique propre du XIXe siècle, du progrès, ne tirait pas uniquement origine de sources républicaines. De récents travaux, dont beaucoup ont porté par l'espoir de ressusciter un sens du devoir civique et de contrecarrer l'individualisme rapace encouragé par le libéralisme, ont oublié que le concept de vertu le plus fort se trouvait dans certaines formes de protestantisme radical. Pour un puritain tel que John Milton, la vertu ne renvoyait pas au service désintéressé rendu au bien public, mais au courage, à la vitalité et à la force stimulante qui émanait en dernière instance du créateur de l'univers. Il associait la vertu à la fois au bienfait concédé au genre humain par Dieu et à la reconnaissance pleine de gratitude à l'égard de la vie, une vie envisagée comme un don plutôt que comme un défi à notre pouvoir de la modeler en fonction de nos propres aspirations. Au XIXe siècle, période où l'avancée de l'inventivité humaine semblait annoncer une victoire décisive sur la fatalité, Thomas Carlyle et Ralph Waldo Emerson, calvinistes modernes sans théologie calviniste, rappelaient à leurs lecteurs que les êtres humains ne contrôlaient pas leur propre destin. Ils prétendaient en effet que le destin ne pouvait être conquis que par l'émerveillement et la vertu, par l'acceptation pleine de gratitude d'un monde qui n'était pas uniquement fait de jouissance. L'importance qu'ils accordaient aux limitations humaines a, me semble-t-il, beaucoup à voir avec la critique populiste du progrès, même s'ils le formulèrent beaucoup plus en termes philosophiques qu'en termes politiques. Défier le destin, dans la conception d'Emerson, se résumait à une forme de fraude fiscale, une tentative d'obtenir quelque chose pour rien, une tentative d'échapper à l'impôt sur le désir. Les économistes du progrès espéraient susciter un désir de création de richesses. Emerson et Carlyle réaffirmaient l'ancienne sagesse rurale d'après laquelle un désir irrésistible entraîne le châtiment mérité, une force correctrice et compensatoire.
Le libéralisme moderne a dû faire face, pour s'imposer, à l'opposition vigoureuse de la tradition républicaine.
Conscience de la tragédie. Le philosophe William James, dans sa pénétrante analyse du type d'expérience religieuse qu'il définissait comme celle des « nés deux fois », Twice Born, expliquait l'admirable cohérence de la théologie protestante avec la structure de l'esprit. Pour les nés de foi, la défaite et le désespoir n'étaient que le prélude à l'expérience de l'espérance et de l'émerveillement, d'autant plus intense qu'elle reposait sur une conscience de la tragédie. Si James doutait plus qu'Emerson ou Carlyle des vertus morales du dessaisissement de soi, il partageait avec eux la croyance qu'une dessiccation spirituelle, pour reprendre son expression, faisait encourir un plus grand danger au monde moderne que le fanatisme religieux, la superstition et l'intolérance, les épouvantails de tous ceux qui croyaient que le progrès permettrait à l'homme de perdre le goût de son besoin enfantin de religion. Nombre d'auteurs s'étaient laissés envahir, au début du XXe siècle, par les doutes au sujet du progrès qu'avaient si brillamment exprimé Carlyle, Emerson et James. Ainsi, Georges Sorel, qui reconnaissait une dette intellectuelle à l'égard de James, concevait le syndicalisme non seulement comme l'équivalent moral d'une forme première de propriété, mais comme la seule forme d'action politique susceptible de soutenir une conception héroïque de la vie.
Les libéraux, si prompts à condamner ce qui est déplaisant dans la culture petite bourgeoise, ont perdu de vue ce qu'elle a d'estimable.
Le progrès contre le paradis. Un certain nombre de motifs récurrents inspirent la forme d'opposition à l'idéologie du progrès que j'ai essayé d'analyser et de distinguer d'une lamentation plus traditionnelle sur le déclin de la communauté. Les habitudes de la responsabilité associées à la possession de la propriété, l'oubli de soi volontaire qui accompagne l'immersion dans quelques ouvrages absorbants, le risque que de bonnes conditions matérielles finissent par faire disparaître l'idéal plus exigeant d'une vie bonne, l'idée que le bonheur est assujetti à la reconnaissance, que les humains ne sont pas faits pour le bonheur, ces préoccupations séparément ou se combinant de diverses manières réapparaissaient dans la conception du syndicalisme de Sorel, la pratique de résistance non violente de Martin Luther King. Ce que tous ces penseurs partageaient, eux et leurs prédécesseurs, était un sens des limites, le thème qui unifie l'ensemble du texte qui suit. Une exploration de l'idée des limites dans leurs multiples formes nous permet de reconstruire moins une tradition intellectuelle qu'une sensibilité qui va à contre-courant des tendances dominantes de la vie moderne, mais fait preuve encore aujourd'hui d'une force considérable. Ces penseurs-là, je le crois, incarnaient la conscience des fractions les plus modestes de la classe moyenne, donnant voix à leurs préoccupations particulières et critiquant leurs vices caractéristiques que sont l'envie, le ressentiment et la servilité. Malgré cet art, le conservatisme moral de la petite bourgeoisie, son égalitarisme, son respect pour le travail de qualité, sa compréhension de la valeur de la loyauté et sa répugnance face à la tentation du ressentiment, sont les fondements sur lesquels les critiques du progrès ont toujours dû s'appuyer s'ils voulaient élaborer ensemble une alternative cohérente à l'orthodoxie régnante. Je n'ai pas l'intention de minimiser l'étroitesse d'esprit et le provincialisme de la culture des fractions les plus humbles de la classe moyenne. Pas plus que je ne nie le fait qu'elle a engendré racisme, chauvinisme, anti-intellectualisme et toutes les autres plaies si souvent citées par les critiques libéraux. Mais les libéraux, dans leur impatience à condamner ce qui est déplaisant dans la culture petite bourgeoise, ont perdu de vue ce qu'elle a d'estimable. Leur attaque contre l'Amérique profonde, qui donna lieu en fin de compte à une contre-attaque antilibérale, l'élément principal de l'émergence d'une nouvelle droite, les a rendus aveugles aux aspects positifs de la culture petite bourgeoise. Son réalisme moral, sa compréhension du fait que chaque chose a un prix, son respect des limites, son scepticisme au sujet du progrès. En dépit de tout ce qui a pu être dit contre eux, les petits propriétaires, les artisans, les commerçants et les fermiers, plus souvent victimes que bénéficiaires des innovations, ne risquent pas de confondre le pays enchanté du progrès avec le seul et vrai paradis.